exigé que tout projet de réorganisation de l'État comporte le vote des femmes. Merci.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, cinquième et dernier épisode de notre série où avec l'historienne Anne-Sara Bouglet-Mohalik, nous tentons de répondre à la question « Pourquoi les femmes ont-elles dû attendre 1945 pour voter ?» Dans l'épisode précédent, nous avons vu que dans l'entre-deux-guerres, l'opinion et même les députés sont favorables au vote des femmes. Mais les sénateurs, qui ne veulent pas en entendre parler, ont bloqué plusieurs fois le vote. Quand en 1939 débute la Seconde Guerre mondiale, cela fait 3 ans que les féministes françaises ont mis en berne leurs revendications, sans doute échaudées par les blocages à répétition du Sénat. Décidément, en France, le droit de vote féminin semble tenir de l'utopie. L'année suivante, après le désastre de l'invasion allemande et de l'armistice, c'est donc une assemblée nationale uniquement constituée d'hommes qui accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La Troisième République s'écroule, laissant la place au régime de Vichy, qui, sans surprise, voue aux gémonies les féministes, expression parmi d'autres du fameux « esprit de jouissance » qui serait responsable de la défaite. L'heure est au sacrifice et à la restauration des valeurs traditionnelles de la famille. Mais pour une minorité, l'heure est aussi à la résistance contre l'occupant et contre Vichy, et des femmes y participent activement. Le général de Gaulle ne l'oubliera pas, puisqu'en juin 1942, il affirme qu'après la libération, les femmes et les hommes, sans distinction, éliront une assemblée nationale souveraine.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
En 1943 et en 1944, alors que la France est loin d'être libérée, la Commission à la réforme de l'État, qui met en place les futures institutions du pays, organise plusieurs débats sur la question du droit de vote des femmes. Ce qui est étonnant, c'est que même là, les vieilles oppositions réapparaissent. Par exemple, un ancien sénateur, Paul Jacobi, s'alarme encore en mars 1944. Il est établi qu'en temps normal, dit-il, les femmes sont déjà plus nombreuses que les hommes. Que sera-ce à un moment où les prisonniers et les déportés ne seront pas encore rentrés ? Mais finalement, après de nombreux atermoiements, c'est la ligne la plus démocratique qui va l'emporter. Le 21 avril 1944, date historique, le général de Gaulle à Alger signe l'ordonnance dont un des articles précise « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».
On trouve peu de revendications, voire pas de revendications en faveur du vote dans les travaux du Comité national de la Résistance. Et par ailleurs, le général de Gaulle, comme il l'a prouvé par la suite avec quelques réflexions sur le tricot, notamment les femmes qui pouvaient retourner à leur tricot, je ne pense pas qu'il était particulièrement féministe, c'était un homme de son temps. En revanche, il avait senti que l'opinion publique ne ferait pas sans le droit de vote des femmes et que par ailleurs, pour montrer que la France était une grande démocratie qui avait sa place dans les négociations internationales, il était impossible d'avoir un pays à la traîne sur ce volet démocratique qui n'aurait pas accepté le vote des femmes. Néanmoins, voilà, il a eu cette intelligence de suivre ce que l'Assemblée provisoire consultative d'Alger avait voté, malgré des réticences toujours présentes. Mais voilà, cette Assemblée avait finalement décidé que le droit de vote des femmes était une nécessité, ce qui s'est traduit par cette ordonnance du 21 avril.
Donc en juin 1944, après le débarquement allié, commence la libération de la France et la capitale est libérée le 25 août.
Pendant l'insurrection parisienne, les femmes ont tenu leur poste malgré le danger. Elles ont même pris les armes. Aujourd'hui, sous l'uniforme, elles occupent leur place dans les troupes alliées. 4 ans de souffrance et de courage leur ont même donné le droit de juger elles aussi les traîtres. Voici les 4 jurés qui siègent à la Cour de justice de Paris. Et n'oublions pas celles qui sont devenues Madame la mairesse ou Madame l'adjointe.
Et enfin, le 29 avril 1945, lors des élections municipales, arrive le grand jour, les Françaises votent pour la première fois.
La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Monsieur Le Troquer, président du conseil municipal. La bonne religieuse. Maurice Thorez. Le brave facteur. Francisque Gay. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande République. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie.
Anne-Sara Bouglé-Moalic, est-ce que ce 29 avril 1945, les Français sont venus en nombre voter ?
Oui, elles se déplacent en masse. Et ça, c'est vraiment le meilleur désaveu d'un des grands arguments qu'on voyait dans l'entre-deux-guerres, qui était que les femmes ne seraient pas intéressées par la politique et que donc, quand bien même on leur accorderait ce droit, elles ne l'utiliseraient pas. Or là, on voit bien qu'il y a certes un tout petit peu plus d'abstention féminine que masculine, mais elles sont des millions à aller aux urnes ce jour-là, à faire leur choix. Alors en effet, parfois en parlant avec leur mari, mais c'est encore le cas aujourd'hui, on parle de politique dans le couple, et ça ne veut pas forcément dire que c'est l'homme qui décide ce que vote la femme, mais elles vont avoir ce geste citoyen qu'elles voient plus comme un devoir que comme un droit. Et c'est sans doute pour ça qu'elles vont être encouragées à aller voter, et qu'en parallèle, on va les voir assez peu parmi les personnes élues ou candidates.
On sait pour qui elles ont voté, sous l'influence de leur curé, ou pas du tout?
Globalement, on sait qu'elles ont, et c'est à chaque fois à la marge, elles ont voté un peu plus à droite. Alors, elles ont voté pour le MRP, qui était un mouvement plutôt de droite centriste. Elles ont voté, en effet, plutôt comme leur mari. Ça, c'est une réalité. La pratique religieuse, manifestement, a eu très peu d'influence sur leur vote. Et on sait aussi que si elles ont voté un peu plus à droite, c'est aussi probablement du fait de leur âge, puisque la pyramide démographique fait que les femmes étaient plus âgées en moyenne que les hommes en 1945.
Qu'est-ce que le droit de vote et l'éligibilité des femmes changent à la vie politique française? Vous parlez, Anne-Sara Bouglé-Moalic, d'un combat pour la République.
En 1945, disons que ça change la philosophie de notre démocratie, puisqu'on va avoir enfin cette égalité. Sur un plan plus concret, dans un premier temps, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on va devoir attendre encore une vingtaine d'années, 1965, pour avoir une première réforme importante qui touche au statut des femmes, avec une réforme des statuts matrimoniaux qui les rendent plus indépendantes de leur mari. Et donc, voilà, c'est un temps encore très très long. Et surtout, sur le plan politique, les femmes vont voter, mais on est très 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 loin de la parité, qu'on n'a même pas encore atteint aujourd'hui, 80 ans après ce premier vote. Donc le combat pour la République des pionnières du féminisme au XIXe siècle, finalement, il n'est pas encore totalement conclu et fini.
Merci Anne-Sara Bouglé-Moalic de nous avoir rappelé cette histoire. Je pense évidemment à toutes ces femmes qui, depuis la Révolution française, se sont battues avec acharnement pour pouvoir voter. Donc toutes ces femmes, notamment de 1848, et j'ai une pensée particulière pour Maria Veron. Vous vous souvenez, celle qui, le 21 novembre 1922, après le vote négatif des sénateurs, s'était écriée dans l'hémicycle « Vive la République quand même !» Il y a vraiment un engagement républicain chez ces femmes.
Complètement, et j'aime beaucoup cette phrase de « Vive la République quand même !» Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous reprendre ces modèles de femmes républicaines qui étaient vraiment très universaliste, qui voulait qu'on s'unisse au sein de la République et qu'on cesse de se diviser en petites fractions.
Anne-Sara Bouglé-Moalic, votre livre « Le vote des Françaises, 100 ans de débat 1848-1944 » est édité aux Presses universitaires de Rennes et vous avez publié en 2025 « L'éternel antiféminisme » aux éditions universitaires de Caen. Cette émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin, à la technique Achille Aquenin.